Avec sur l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir les garçons, bonsoir Alain.
Bonsoir Alain. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont donc annoncé qu'elles reconnaîtraient l'existence d'un État palestinien mardi prochain. L'argument, c'est de dire que cette reconnaissance est le seul chemin, je cite, crédible vers la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine. Voilà les déclarations solennelles telles qu'elles ont été prononcées aujourd'hui.
Après consensus entre les deux parties qui composent le gouvernement et en écho au sentiment majoritaire du peuple espagnol, l'Espagne approuvera en Conseil des ministres le 28 mai la reconnaissance de l'État de Palestine.
Mardi prochain, la Norvège considérera la Palestine comme un État indépendant, avec tous les droits et devoirs que cela implique, conformément au droit international.
Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent qu'elles reconnaissent l'État de Palestine. Je suis convaincu que d'autres pays se joindront à nous pour franchir cette étape importante dans les semaines à venir.
Donc on a entendu les trois déclarations. Ce n'est pas un tabou pour la France, c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, mais autant poser la question directement, est-ce que la France doit reconnaître l'État de Palestine ?
Écoutez, je suis persuadé, à tort ou à raison, que la France finira par reconnaître la Palestine. Elle finira par la reconnaître parce que, depuis des décennies, quels que soient les présidents, les premiers ministres, les majorités, de toute façon, la France défend la thèse de la paix par deux États indépendants arrivant à cohabiter. Bon, c'est la théorie française. Donc, ça mène inévitablement à un moment par la reconnaissance de la Palestine. Maintenant, encore faut-il que ça soit efficace. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Gaza, et quand on se rappelle les horreurs du Hamas contre les Israéliens auparavant, c'est évident qu'ils sont pas à un moment où ils songent à la paix entre eux. Et donc, on pourrait faire ça, mais ça serait d'ordre purement symbolique et dans l'immédiat. Quand je dis dans l'immédiat, ça veut dire pendant des mois et peut-être des années, ça ne changerait rien à rien. Bon, par ailleurs, la France a une particularité en Europe, c'est qu'on a la communauté juive la plus importante et de loin, et qu'on a une communauté musulmane très importante aussi. Et enfin, la France est au Conseil de sécurité et un des trois membres occidentaux. Elle sera probablement le premier à reconnaître un jour l'existence de la Palestine officielle. Mais ce jour-là, il faut que ça soit vraiment une accélération, il faut que ce soit un tournant, il faut que réellement ça apporte quelque chose, que ça provoque des polémiques sûrement, mais que ça apporte quelque chose. Aujourd'hui, ça ne servirait à rien.
Le Hamas a félicité, a remercié ces pays qui ont reconnu
comme l'OLP
l'État de Palestine. En revanche, Israël estime que c'est la victoire du terrorisme.
Alors, la solution à deux États, elle est préconisée, Alain l'a rappelé, par la France depuis des décennies et à travers toutes les majorités qui ont gouverné ce pays. Maintenant, on est dans une situation, dans un contexte qui est particulier. Puisque reconnaître un État en droit international, c'est reconnaître une population, un territoire et une autorité publique. Ce sont les trois piliers de la reconnaissance d'un État. Le premier problème, derrière ces déclarations romantiques, qu'est-ce qu'il y a comme reconnaissance du territoire ? Parce que quand même, quand on regarde l'emblème du Hamas, que vous avez certainement vu avec le dôme du rocher, au-dessus, il y a la carte du territoire revendiqué, et cette carte, elle gomme Israël. Et la charte, les deux chartes, la charte du Hamas et la charte revisitée, ont bien indiqué de façon claire que cela conduisait à supprimer Israël par le massacre et ou l'exil. Alors ensuite, quand on regarde l'autorité publique, je demande aux pays qui ont reconnu la Palestine, quelle autorité publique ils reconnaissent ? Parce que par ailleurs, ils sont ils sont dans l'Union européenne qui a déclaré le Hamas organisation terroriste et qui considère le Hamas comme une organisation terroriste. Donc, je dis quand même, il y a dans cette reconnaissance toute une série d'ambiguïtés qu'il faut absolument lever. quel territoire.
Et pourquoi ces pays ont fait ça?
Quelle reconnaissance d'Israël et quelle autorité publique?
Mais pourquoi, pardon, mais pourquoi l'Espagne, l'Irlande et la Norvège se distinguent?
Ce sont trois pays qui ont d'ailleurs des intérêts tout à fait divers dans l'affaire. L'Espagne veut être une grande puissance méditerranéenne, donc se sent très concernée par ce qui se passe en Israël et à Gaza. La Norvège a joué un rôle historique au moment des négociations d'Oslo, qui ont failli réussir, en fait. Bon, et donc, elle considère qu'elle a un crédit particulier. Et puis, l'Irlande sait ce que c'est qu'une guerre civile, puisqu'elle l'a payée pendant des siècles. Donc, ils ont une implication particulière. Mais la question, c'est que, puisqu'on est au Conseil de sécurité, et puisqu'on a notre situation particulière avec communauté juive et communauté musulmane en France, on a à la fois une responsabilité particulière, mais on a aussi un poids particulier. Et ce poids particulier, il ne faut pas le gâcher. Alors, Roselyne rappelait comment le Hamas représente aujourd'hui la carte. De toute façon, c'est pas le Hamas qu'on reconnaîtrait. C'est la Palestine, c'est autre chose. Ben oui, il y a une autorité palestinienne.
C'est le Hamas qui est aujourd'hui à la tête de ce territoire.
C'est bien pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est exactement
donc
pour
il
ça.
Donc, les deux États ne sont pas possibles tant que le Hamas reste
Il faut
d'abord
résoudre la situation, amener ces territoires vers la paix.
Attendez, c'est ça le plus urgent. Il faut qu'il y ait... Bah, de toute façon, rien ne va se faire à court terme.
Bien sûr. Pas,
avant qu'un processus de paix puisse être réenclenché, franchement, il va falloir attendre beaucoup trop longtemps, mais il va falloir attendre longtemps, incontestablement.
C'est la guerre, là, pour l'instant.
Et aujourd'hui, le Hamas... revendique l'ensemble du territoire, entre le fleuve et la mer, selon la formule, et Israël ne veut pas, en réalité, son gouvernement actuel ne veut pas d'un territoire palestinien. C'est absolument symétrique, aucun des deux ne l'accepte. Or, il y a quand même si l'ONU ne fait pas ce qu'elle veut, on fonctionne sur les déclarations de 1947 et toutes les déclarations et tout ce qui a été signé depuis, qui est fondé sur le principe de deux États. Et pour l'instant, c'est impossible.
Mais, pour rester sur ces déclarations, est-ce qu'il n'y a pas un peu de cynisme de la part de ces gouvernements, c'est-à-dire de se dire... c'est peut-être un moyen aussi d'éviter les tensions à l'intérieur du pays. On a vu ce qui s'est passé dans les facs, on a vu les manifestations. Ils disent, en reconnaissant la Palestine, ça ne nous engage pas à grand-chose. Et en même temps, ça peut calmer les éventuels mouvements qu'on pourrait avoir dans une diversité
ou dans nos rues. J'ai parlé de déclarations romantiques qui n'étaient pas étayées sur une analyse fine des conditions pour que ça marche et pour rétablir la paix. Parce qu'il faut être vraiment essayer de revoir l'histoire. Tout cela n'est possible que s'il y a la reconnaissance par les deux parties de la résolution 181 de 47, c'est-à-dire celle qui fait et qui va ensuite être concrétisée en 48 par la rentrée d'Israël dans les Nations Unies, et qui, ce plan de partage, il est parfaitement clair, ça suppose que Israël lâche les territoires occupés et arrête sa stratégie de colonisation. Je suis en train de chercher le nom de settlements, d'installation dans
ces territoires.
De colonisation, voilà. Et puis, que l'autre partie reconnaisse l'État d'Israël. On en est évidemment très loin. Quand Rabin et quand Yasser Arafat s'étaient entendus, on n'était pas très loin de ça. On était tout près de cela. Il faudrait retrouver de chaque côté des gens qui acceptent sous l'égide des Nations Unies.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur la politique intérieure. Sur le fait d'apaiser un peu le climat dans chacun de ces pays.
Alors,
oui, vous avez raison, j'en suis persuadé.
En ce qui concerne l'Espagne, l'opinion est massivement pour la reconnaissance de la Palestine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de grande polémique en Espagne. Et l'Espagne espère, a envie, et ce qui est d'ailleurs légitime, de jouer un rôle important diplomatique, mais aussi économique, etc., dans cette région du monde. Ça fait partie de sa vocation, comme ça fait partie de la nôtre, d'ailleurs. La Norvège, c'est parce que la Norvège se sent un crédit historique particulier, puisque c'est grâce à elle qu'à un moment, il y a eu la seule fois de toute l'histoire depuis 1947 et 1948 qui a eu vraiment l'espoir de parvenir à un compromis entre les deux.
Pardon, c'est quand même une Europe divisée qui apparaît sur cette question de la reconnaissance, mais aussi sur la décision de la CPI, puisque Il y a des pays qui ont critiqué la décision de la cour, enfin du procureur.
Oui, c'est pas une décision.
Oui, du réquisitoire du procureur qui demande que des poursuites soient engagées contre le chef du gouvernement israélien. L'Italie, par exemple, a critiqué. L'Allemagne aussi. La France, au contraire, soutient la CPI. Donc on voit
tout
quand même que
de ne pas mettre sur le même plan
les deux. Non, mais voilà, coup sur coup, l'Europe est divisée.
Mais l'Europe, il n'y a pas de politique étrangère européenne en réalité.
Ça saute aux yeux.
Et la politique étrangère, pour l'instant, et je pense très durablement.
Depuis la guerre des six jours, ça, on sait bien.
Ça relève de la souveraineté de chaque pays. Mmh. Et les attitudes, Roselyne le dit, elle a tout à fait raison, les attitudes sont très différentes d'un pays à un autre. Et ça a été le cas, effectivement,
pendant la guerre. Donc là, on n'est pas capable d'avoir une position commune sur cette question.
Oui, et puis il y a dans notre pays une culture, une habitude des politiques moyen-orientales qui est basée sur un réseau diplomatique extrêmement puissant et extrêmement informé.
Et une compétition entre les pays européens.
Voilà. Et ce qui, alors, le Royaume-Uni a ce, enfin, qui n'est plus dans l'Union européenne, cette diplomatie efficace, mais on constate que ce n'est pas le cas des autres pays qui n'ont pas ce réseau, qui n'ont pas cette culture. Alors, est-ce que diviser, il y a surtout tout le monde est pour, reconnaissons les choses, tout le monde est pour la solution à deux États dans l'Union européenne. Je n'ai pas vu
Décision du procureur de la CPI, tout le monde n'était pas d'accord.
Alors,
elle a été très critiquée en Italie.
Non, mais parce que je crois qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas compris le processus. Le procureur fait un réquisitoire. D'ailleurs, dans les titres, on oublie qu'il met aussi les gens du Hamas.
Oui, mais c'est ça qui est reproché. C'est-à-dire qu'il met,
dans son réquisitoire.
Oui, mais il met sur le même plan un mouvement terroriste et une démocratie.
Mais enfin, il fait un réquisitoire et ensuite c'est la CPI va trancher. Oui, elle va entendre les parties et elle va décider. Et la plupart des spécialistes du droit qui connaissent bien les affaires de la CPI pensent que cette affaire-là n'ira pas très loin.
Pour ces pays qui reconnaissent la Palestine, ils vont avoir qui comme interlocuteur?
Pardon.
Et qui va être l'interlocuteur pour ces pays qui reconnaissent la Palestine mardi prochain?
Théoriquement, leur interlocuteur, c'est l'autorité palestinienne. Alors, l'autorité palestinienne, aujourd'hui, ça n'est plus grand-chose.
Son
président est non seulement très âgé, ce qui n'est pas forcément un handicap, mais enfin, il est très âgé.
Il est moins en forme que vous.
Et il est très contesté, plus que moi.
Et moins en forme que vous.
Bah écoutez, et puis surtout,
il a perdu les élections à Gaza, c'est surtout ça.
Et aujourd'hui, Netanyahou, de toute façon, militairement, mais aussi politiquement, bloque complètement les choses. Donc, il ne faut pas se raconter. Quand il y a la prise de position du procureur, en réalité, elle est faite exclusivement sur une analyse juridique de la loi internationale. Et sur l'analyse juridique de la loi internationale, c'est un fait que les deux parties qui ont été nommées, c'est-à-dire le Hamas et Israël, ont, pour des raisons évidemment complètement différentes, dans des conditions opposées, pris des décisions et mis en œuvre des décisions qui sont le contraire même du droit international.
Dernière question, est-ce que Emmanuel Macron est toujours un ami d'Israël ?
Oui, Emmanuel Macron est un ami d'Israël, parce que je crois qu'avec les amis, les mots doivent aller jusqu'où va la pensée. Et que rappeler à Israël les obligations humanistes et humanitaires, c'est pas être l'ennemi d'Israël. Moi, je pense que la politique de Netanyahou est une impasse, y compris pour les Israéliens. Oui. Et le rappeler, c'est vraiment être un ami d'Israël. Parce que il y a un trouble profond dans les populations qui sont des amis d'Israël et qui combattent l'antisémitisme. On ne peut pas voir les images des enfants de Gaza sans avoir le cœur brisé. C'est ça aussi qu'il faut dire.
La France en général, l'État et Emmanuel Macron en particulier sont bien entendu des amis d'Israël. Ce sont des amis d'Israël, mais la France et Emmanuel Macron ont toujours été des amis particulièrement difficiles d'Israël. Peut-être même les amis les plus difficiles parmi les pays européens. Parce que l'Allemagne, par exemple, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, reste en dehors de tout ça. Les autres pays n'ont pas du tout la même influence, sont pas au Conseil de sécurité, etc., n'ont pas la même histoire au Proche-Orient. Le Proche-Orient, pendant un siècle, ça a été la rivalité sur place entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et la France.
Et n'oubliez pas les croisades. N'oubliez pas les croisades.
On disait d'ailleurs que la France avait une politique plutôt
proche. J'ai peur qu'il nous faille peut-être une autre émission.
Merci Roselyne Bachelot, merci Alain Duhamel.